C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Là, on va aller en Ukraine parce que le 24 février dernier, ça fait un mois aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine a fait ce que beaucoup de gens pensaient croyaient impensable. Le renseignement américain, lui, était assez clair depuis quelque temps. Poutine va lancer ses armées en Ukraine, un peu partout en Europe. On avait des doutes, même en Ukraine, on avait des doutes. Je me souviens, là, quelques semaines avant l'invasion, d'avoir fait une entrevue avec un journaliste là-bas qui nous disait que les gens étaient, dans le fond, assez rassurés, pensaient qu'il s'agissait juste d'un bluff, d'un exercice. Un mois plus tard, on sait que cette guerre est très réelle, très sanglante. Et les Ukrainiens résistent, ma foi, de façon magnifique. On va aller en Ukraine parler avec Alona Shkrum, elle est députée au Parlement ukrainien. Madame Shkrum, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'accepter de nous parler aujourd'hui. Dites-moi, comme députée, est-ce que vous travaillez encore? Est-ce que vous êtes encore parlementaire pendant la guerre?
Mais oui, je suis à Kiev maintenant, au centre de la capitale. C'est pas très facile de travailler parce qu'il y a toujours les sirènes, il y a toujours les bombardements. Il y a sirènes 3-4 fois par nuit, mais en effet, aujourd'hui, nous avons eu notre 4e session du Parlement pendant cette guerre. C'était la 4e session du Parlement et nous avons eu beaucoup de membres du Parlement pour voter, plus que la majorité constitutionnelle qui, je peux vous dire la vérité, beaucoup plus qu'on a eu les votes et les membres du Parlement avant la guerre.
Dites-moi, est-ce que vous allez physiquement au Parlement ukrainien?
Oui, oui, mais pas maintenant parce que c'est déjà la nuit en Ukraine. Mais oui, aujourd'hui, c'était au centre de la ville, au bâtiment parlemental, comme toujours, comme avant la guerre. Et c'est vraiment un risque, mais c'est un risque qu'on prenne parce que c'est très important, je pense, pour nous et pour les gens ukrainiens de savoir que les membres du Parlement sont là et sont à la capitale. La propagande de Poutine a dit que tous les membres du Parlement ont parti en Pologne, au Canada, aux États-Unis, etc. Mais c'est pas vrai, vraiment. Il y a la majorité constitutionnelle à Kiev pour se réunir, c'est pour faire les votes.
Est-ce que le président Zelensky, dans votre système, Madame la députée, va au Parlement?
Non, ça, ce sera très, très dangereux pour lui. Nous savons très, très bien qu'il y a une liste noire pour tuer les membres du Parlement et c'est sûr qu'il veut tuer le président. Et on a eu quelques occasions pour arrêter les attentats pour le Zelensky. Et il est au centre de Kiev aussi, mais c'est très, très risqué pour lui d'aller au Parlement. C'est même risqué pour nous d'être au Parlement. Il n'y a pas de online il n'y a pas de TV online comme toujours parce qu'on ne peut pas dire quand nous se réunissons au Parlement. C'est toujours le secret, mais après nous avons parti, après une heure, il y a les vidéos et les photos et tout ça et tout le vidéo matériel de qu'est-ce qu'on a fait.
Comme député, vous siégez au Parlement, Alona Shkrum. Est-ce que tous les enjeux présentement comme parlementaire touchent à la guerre ou est-ce que vous prenez des décisions qui touchent d'autres aspects de la vie?
Mais je peux vous dire que la décision de tous les partis et de toutes les fractions au Parlement, parce que moi, par exemple, je représente le parti d'opposition, normalement, on nous dit dans la vie avant la guerre, j'étais opposition pour le Zelensky, mais maintenant, il n'y a pas de parti d'opposition. Il y a la vouloir de se défendre, notre vie et défendre notre patrie. C'est pourquoi on a pris la décision qu'on vote seulement sur les choses où il y a l'unanimité. Et c'est pourquoi on discute avant le Parlement, la session, on discute toutes les questions, on discute avec le Zoom, comme on a fait pour le coronavirus et pendant le coronavirus. Et il y a la majorité des questions, je peux vous dire qu'ils touchent les armées, les forces de défense territoriale, le médecine, l'aide aux gens pour faire les couloirs humanitaires de Mariupol et les autres endroits très dangereux. Mais oui, il y a les questions aussi pour le business, qui touche par exemple le taxe pour le business, parce que nous avons vraiment besoin de soutenir le petit et le grand business qui peut travailler maintenant, et c'est très important pour l'économie. Et on essaye de déplacer aussi le business de zones où il y a le bombardement à l'ouest de pays où il n'y a pas.
Aujourd'hui, ça a été une journée importante pour la démocratie ukrainienne parce que vous avez eu de la visite de des présidents des parlements de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie. À quel point le symbole est important pour vous?
Mais oui, mais c'était choquant, mais c'était super important pour nous parce que c'était le président de ces trois parlements, de Estonie, de Latvie, de Lituanie, à notre parlement, avec nous dans le même bâtiment, dans le même salle. Je sais que c'est un grand risque et un grand danger pour leur vie. Je pense que les ambassades de ces trois pays le disent de ne pas le faire parce que c'est un grand risque. Il y a toujours le bombardement au Kiev, même pendant la journée. Il y a le sirène, etc. Et bien sûr que nous avons la défense aérienne, mais vous savez, c'est pas sûr. Et il y a certaines de raquettes et certaines bombes qui peuvent toucher le bâtiment du Parlement. Mais ça, je pense, c'était très important pour nous et pour tous les jeunes ukrainiens de voir le président du Parlement de ces trois pays de Baltique qui connaît très, très bien la politique de la Russie et de Poutine et de l'agression de Poutine déjà. Et de l'agression de Russie déjà, et c'était très important et inspirational en anglais, c'est ça?
Oui, c'était inspirant. C'était inspirant.
Inspirant, exactement.
Alona Shkrum, parlons un peu d'une possible solution politique à ce conflit. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution politique qui est envisageable?
Non, mais je peux vous dire que toute la guerre doit être fini avec une solution politique, avec la négociation et avec certains accords. Mais pour maintenant, on ne voit pas aucune souhaite de Poutine de la part des soldats russes de négocier aucune chose. Nous faisons la négociation chaque jour, même que c'est très difficile. Mais nous le faisons pour les couloirs humanitaires et pour faire sortir les gens de Mariupol, de Kharkiv, de 30 kilomètres où je suis maintenant, de petits villages de Kiev qui sont occupés. Mais en effet, presque chaque jour, quand nous nous sommes d'accord sur les couloirs humanitaires, après le jour prochain, les forces russes et les soldats russes commencent à faire le bombardement de gens civils, les enfants et les femmes pour ce couloir humanitaire. C'est-à-dire que le Poutine, maintenant, il n'a pas réussi à faire la guerre vite sur un blitzkrieg parce qu'il voulait vraiment de faire le parade de victoire à Kiev le deuxième, le troisième jour de la guerre. Maintenant, nous sommes dans un mois de cette horrible guerre, mais quand même, il n'a pas réussi à le faire, il n'a pas pris la capitale, et maintenant, il juste fait le crise humanitaire, la sortante stratégie de terre brûlée, le crise au centre de l'Europe. Il a détruit pour 90% le Mariupol, c'est beaucoup plus que même Aleppo a été détruit en Syrie. C'est super choquant. Ils bombent et bombardent les hôpitaux, la maternité à Mariupol, je pense que vous avez vu. Oui. Et je suis sûre que maintenant, il ne va pas arrêter que si nous les arrêtons avec notre armée, avec les sanctions de tous les pays, avec isolation économique, culturelle, politique et tout ça. Et après, bien sûr que quand ils s'arrêtent, et quand il ne reste pas pour lui les soldats qui veulent prendre les armes du parti russe, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent maintenant d'aller à Kiev parce qu'ils ne comprennent pas la cause de cette guerre. Après, on va commencer les négociations et peut-être ça va aller à quelque chose.
Le monde entier a été surpris, Madame la députée, par la qualité de la résistance, la qualité de l'armée ukrainienne. Est-ce que vous avez été vous-même surprise?
Je peux vous dire que c'était un mois terrible vraiment pour moi et pour tous les Ukrainiens, mais c'était aussi un mois très impressionnant pour nous. Et une moins grande pour nous parce que je pense que c'est la première fois que notre pays est tellement unifié, est tellement dans le sens un seul pays pour se défendre. Et bien sûr que c'est pas le premier jour et le premier mois de cette guerre parce que vous savez que la Crimée a été annexée il y a huit ans, le Donbass a été annexé il y a 8 ans. C'est-à-dire que nous avons eu la possibilité de voir qui est Poutine et de faire préparer à cette guerre, même 6 mois, je ne pensais jamais que ce sera une guerre grande comme cela, ou que Poutine va bomber les hôpitaux et les établissements civils et va tuer tellement beaucoup des enfants et des femmes. Mais oui, maintenant, nous sommes très bien préparés pour ça.
Est-ce que vous détestez les Russes?
Les Russes? Mais vous savez, c'est une question difficile parce que moi, en effet, j'ai la mère. Ma mère est partie de Sainte-Cruz. Et moi, j'ai fait les études dans l'école russe. Je parle russe dans ma famille, chez moi. Et c'est vraiment difficile de moi de détester les Russes ou la littérature russe ou la télévision russe. Mais je pense que maintenant, parce que la propagande a été tellement grande, et parce que l'isolation était tellement grande, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas des autres nouvelles, il n'y a pas accès au site d'Internet étrangère à la Russie. Je pense que maintenant, oui, tous les Russes qui soutiennent les Poutine, ils sont responsables de ces morts et de notre enfant mort et d'autres femmes mortes ici en Ukraine. Et ça, c'est la vérité qui n'est pas facile à comprendre. Mais je pense que c'est la même chose qu'avec le Hitler, parce qu'il y avait un grand support pour Hitler pendant la guerre deuxième mondiale, mais après, c'était très difficile pour tous les gens qui étaient de l'Allemagne, qui venaient de l'Allemagne. Je pense que c'est la même chose maintenant. Mais bien sûr que c'est des problèmes à cause de l'isolation, à cause peut-être de cette politique de laisser faire à Poutine qu'est-ce qu'il a fait à Géorgie, à Crimée, etc.
En terminant, il y a des gens qui m'écrivent pour me demander où vous avez appris le français. Vous parlez un excellent français, Madame la députée.
Oh non, j'ai besoin de pratiquer, mais en effet, il y a longtemps, j'ai fait mes études en France, à Paris, pour le droit international, et j'ai travaillé comme assistante dans un bureau d'avocat, il y a longtemps. Mais ma problème avec ça est que tous les cours que j'ai appris à Sorbonne avec le droit international humanitaire, droit de l'homme, tout ça ne marche pas pour les Poutine et ne marche pas maintenant dans le monde entier.
Alona Shkrum, le combat des Ukrainiens est très émouvant. Bon courage, merci.
Merci, merci.
Merci. C'était Alona Shkrum, députée au Parlement ukrainien.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Un mois de guerre en Ukraine, on est le 24 mars et le 24 février, ben les tanks russes rentraient en Ukraine dans cette c'est la plus grande guerre d'agression à se dérouler en Europe depuis 75 ans. Et à voir aller Vladimir Poutine, on a un peu l'impression de revenir à l'époque de l'Union soviétique, notamment là sur la scène domestique. Il y a un rideau de fer qui est en train de tomber sur la vie des Russes et les Russes ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent, ne peuvent plus penser même ce qu'ils veulent. Et ça rappelle tout ça, l'URSS communiste qui contrôlait les esprits et qui contrôlait aussi de nombreux pays dans ce qu'on appelait le Bloc de l'Est. On va faire un rappel de cette époque-là parce que c'est pas anodin avec ce qui se passe aujourd'hui. On va parler avec Guillaume Sauvé, spécialiste de la Russie, politologue au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Professeur Sauvé, salut!
Oui, bonjour.
Bon, je pense que c'est important de faire un rappel à mon âge avancé, 50 ans. J'ai grandi pendant la guerre froide, j'étais fasciné par ce qu'on appelait le rideau de fer, le mur de Berlin, tout ce qui était le Bloc de l'Est, mais je pense qu'il y a un rappel à faire pour nos auditeurs qui sont plus jeunes. D'abord, rappelez-nous, c'était quoi l'URSS?
Oui, ben je dirais que cette expérience-là, d'ailleurs, je l'ai souvent avec mes étudiants en classe qui sont nés souvent après la chute du mur de Berlin. Donc pour eux, c'est assez abstrait aussi. Donc l'Union soviétique, l'URSS, de son nom complet, l'Union des républiques socialistes soviétiques, est un État qui a été créé au début des années 20. C'est un peu comme le successeur de l'Empire russe, mais évidemment avec une mission autrement différente qui était de bâtir le communisme. Et c'était, comme son nom l'indique, une union de différentes républiques. Et donc, il comptait, au final, enfin, à la toute fin, il a compté 15 républiques. Et c'est ces 15 républiques qui, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, donc en décembre 1991, ont donné naissance aux 15 États post-soviétiques, dont la Russie, bien sûr, mais aussi l'Ukraine, dont on a beaucoup l'occasion de parler ces derniers temps, et qui donc, elle faisait partie de l'Union soviétique.
Et la Russie était, c'était là, la plus grande république de l'URSS.
Oui, exactement. C'était la, elle avait un nom à coucher dehors, comme on dit, la RSFSR, la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Et ça, c'était la plus grande des 15 républiques soviétiques. Mais ça n'en était qu'une. Donc, quand on dit Union soviétique égale Russie, c'est faux. Mais la Russie était, disons, le plus gros morceau et évidemment le pouvoir central de cette Union soviétique, puisque la capitale de la Russie, de la République de Russie, et la capitale de l'Union soviétique était dans la même ville, qui est Moscou.
Donc, l'Ukraine faisait partie de l'URSS, mais il y a des pays qui étaient limitrophes, qui ne faisaient pas nécessairement partie de l'URSS, mais qui étaient complètement contrôlés par l'URSS. La Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, etc. Et après la chute, la Russie a-t-elle vraiment accepté de plus contrôler ces pays-là?
Je dirais que au sujet des pays du bloc de l'Est que vous avez évoqué, puis en fait, faut voir le contexte est assez différent là, parce que donc c'est ça, c'est la distinction qu'il faut avoir en tête là, qui est pas évidente a priori, qui est entre les pays post-soviétiques comme l'Ukraine ou la Russie, qui est donc des pays qui ont fait partie de l'Union soviétique, et des pays post-communistes comme la Pologne ou l'Allemagne de l'Est ou la Hongrie, la Roumanie, etc., qui ne faisaient pas partie de l'Union soviétique, mais qui étaient des pays qu'on appelait satellites de l'Union soviétique. Et eux, finalement, ils deviennent justement des membres des pays satellites de l'Union soviétique, des pays du Bloc de l'Est, plus tard. Parce que j'ai dit l'Union soviétique, c'est les années 20, mais le Bloc de l'Est, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est après que l'Allemagne, l'Armée rouge ait libéré l'Europe de l'Est de la domination nazie. Ben, eux-mêmes ont instauré leur propre domination par la suite. Puis ont gardé ces pays-là dans leur orbite. Ils ont aussi coupé l'Allemagne en deux, accessoirement. Mais pour répondre à votre question, je dirais que la Russie contemporaine, non, n'est pas extrêmement nostalgique de son influence sur les pays du Bloc de l'Est. La Russie a volontairement laissé partir en 1989. La Russie et l'Union soviétique de Gorbatchev ont favorisé la chute du mur de Berlin parce qu'ils considéraient que c'était dans leur intérêt. Il y aurait beaucoup de choses à dire pourquoi, c'est quoi la demande derrière ça. L'idée, c'était de se rapprocher des Occidentaux, pour le dire rapidement. Donc, je pense pas que la Russie contemporaine, tu sais, a comme des nostalgies de la domination de la Pologne, considérant d'ailleurs l'opinion que la plupart des Polonais ont des Russes. Mais par contre, la Russie contemporaine a beaucoup de nostalgie d'une certaine influence sur les pays post-soviétiques, ceux qui faisaient partie de l'Union soviétique et donc faisaient partie du même État.
Comme l'Ukraine.
Des pays alliés, comme l'Ukraine, justement. Et surtout l'Ukraine.
La question de l'Ukraine, c'est un pays qui, en fait, c'est un peuple, c'est un pays maintenant, mais c'est un territoire qui a été toujours chaudement disputé par plusieurs empires.
Oui. Alors... Là, on peut remonter loin dans l'histoire, là. Mais disons qu'il y a eu, pour dire très rapidement, du 9e au 13e siècle, donc on parle à l'époque médiévale, il y a eu un État qui avait sa capitale à Kiev et qui est l'ancêtre commun de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie contemporaine. Cet État a été détruit par les Mongols. Puis ensuite, ça a été effectivement, le territoire de l'Ukraine contemporaine a été partagé soit entre un État sous domination polonaise, soit l'Empire austro-hongrois, soit, et de plus en plus, l'Empire russe qui arrivait de Moscou et s'est étendu jusqu'à ce qu'à l'époque soviétique, il occupe l'entièreté du territoire de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine.
Quand le président Poutine dit que l'Ukraine est une fiction, est-ce qu'il est tout simplement revanchard ou il y a une sorte, connaissant les liens entre les Russes et les Ukrainiens, ou est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans?
Ben, c'est-à-dire que, d'abord, quand Poutine ne dirait pas, par exemple, que l'Ukraine n'existe pas, il va dire que l'État ukrainien est une fiction. Ouais. Parce que l'idée pour, en fait, pas juste pour Poutine, et c'est choquant pour les Ukrainiens d'entendre ça, mais c'est une banalité en Russie, c'est pas juste Poutine qui pense ça, c'est l'immense majorité des Russes, qu'ils soient pour ou contre Poutine par ailleurs. Ouais. C'est l'idée qu'en fait, les Ukrainiens et les Russes sont foncièrement le même peuple, peut-être avec comme des variations locales, et qu'ils ont été artificiellement séparés dans l'histoire, bon, par les invasions mongoles à la fin du Moyen-Âge, puis ensuite par différentes occupations militaires, et qu'il y a cette idée, donc je ne fais que rapporter, cette idée est très courante en Russie, qu'éloigner l'Ukraine de la Russie reviendrait à arracher à la Russie une part d'elle-même. douce, qui est comme un peu l'arrière-plan de bien des discours de Vladimir Poutine.
On a tantôt, plus tôt à l'émission, on a interviewé la députée Alona Shkrum, pardon, elle est députée au Parlement ukrainien, et elle m'a expliqué comment il y a des liens dans sa famille avec des Russes. Et c'est assez symbolique parce qu'on entend souvent ça. Là, il y a beaucoup de familles ukrainiennes qui ont beaucoup de parties de l'arbre généalogique en Russie et vice-versa. Ce sont des peuples... À quoi on pourrait comparer ça, disons, dans notre au Canada ou en Amérique du Nord?
Ben, ouais, les comparaisons, c'est toujours un peu difficile, mais... Alors, d'abord, ce sont effectivement des peuples qui sont très proches à bien des niveaux, c'est-à-dire que c'est des peuples qui sont... dont les langues sont très proches. J'avais trouvé le chiffre récemment que le lexique du russe et de l'ukrainien est 70% commun. Mm. Mais pour point de comparaison, celui de l'espagnol puis du français est 75% commun. Donc, si vous voulez un point de comparaison, deux langues qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même foncièrement distinctes, comme le français puis l'espagnol, en gros. Et donc, c'est au niveau linguistique. Ensuite, au niveau historique, ben il y a des régions de l'Ukraine qui sont sous domination ou disons qui font partie de l'espace politique et culturel russe depuis plus de 3 siècles. Mm. En particulier, les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, qui sont des régions où la majorité des Ukrainiens, tout en se disant ukrainiens, ont pour première langue le russe. Et c'est les régions qui sont en ce moment où il y a les combats les plus violents en ce moment. En Ukraine, c'est un peu le paradoxe et la tragique ironie de l'histoire, c'est qu'en ce moment, c'est des russophones qui se battent contre des russophones, mais c'est des russophones ukrainiens contre des russophones russes, en grand nombre, dans les régions de l'est et du sud de l'Ukraine.
Si Vladimir Poutine n'avait pas été un fils de la guerre froide, un fils de l'URSS, est-ce que vous pensez qu'il aurait envahi l'Ukraine?
Parce que il n'y a pas juste Vladimir Poutine qui est un fils de la guerre froide. Mmh. la moitié de ceux qui vivent dans cette région du monde, peut-être plus, je n'ai pas fait le calcul démographiquement, mais tout le monde est un fils de la guerre ou une fille de la guerre froide dans ces régions-là. Je veux dire, ça fait partie de leur vécu. Comme dans un sens, ça fait aussi partie de notre vécu. Là.
Non, mais Guillaume Sauvé, vous comprenez ce que je veux dire. Il a quand même dit un jour que la plus grande tragédie géopolitique du 20e siècle, ça a été l'écroulement de l'URSS. Il y a quand même une certaine nostalgie de cette époque-là.
Oui, oui, tout à fait. Mais ça, encore là, c'est une idée qui est partagée par la majorité des Russes quand on fait des sondages. Ouais. C'est parce que c'est la grandeur perdue, parce que c'était aussi une stabilité économique, parce que, voilà, c'est des régions qui ont connu des années très difficiles après la chute de l'Union soviétique, économiquement parlant. Et donc, on peut comprendre que, par contraste, il se fait comme une sorte d'idéalisation d'un passé... d'un passé perdu.
Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Guillaume Sauvé. Bonne soirée.
Vous aussi, au revoir.
Salut. Guillaume Sauvé, spécialiste de la Russie, politologue au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM.
Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Elle se dandine dans notre studio éphémère du lip-sync sa propre chanson. Martine Sinclair est avec nous. Salut Martine.
Salut les amis.
Merci d'être là.
Grand plaisir.
Tu fais tellement des heureux aujourd'hui.
C'est vrai.
Mais entre autres, MC Gilles, qui est probablement ton plus grand fan.
J'ai triché, je suis allé, durant ton entrevue Patrick, et je m'excuse, je suis allé jaser avec Martine Sinclair.
C'est bien fait.
Parce que là, en plus, on a partagé. Moi, un de mes disques préférés, c'est Caribou, que j'ai cherché durant 10 ans en vinyle. Je l'ai trouvé. Et là, j'ai appris que Martine, tu l'as même pas, toi,
non,
en vinyle.
Je veux te l'acheter, fait qu'on va s'en reparler après.
Ça va coûter cher.
Martine, tu viens aujourd'hui parce que t'as sorti ce qu'on appelle un mini-album qui est disponible de façon digitale, c'est-à-dire sur les plateformes. Et il va y avoir le long album qui
tout
va sortir
fait.
Plus tard.
Oui.
Donc, ce n'est qu'une mise en bouche,
oui.
Mais c'est un excellent prétexte pour reparler de tes succès parce qu'il y a une série de spectacles qui s'en vient aussi avec tout ça. Là, on entendait Quand je tombe en amour. Est-ce qu'il y a un retour à la nostalgie? Tu sais, je pense entre autres à cette grande tournée, il y avait pour une histoire d'un soir avec des chanteuses qui font partie à peu près de la même époque que tes grands succès.
Oui.
Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement pour les chansons qui ont plus en 1980-90?
Ben, il y a un engouement pour les chansons qui nous ont fait vivre plein de choses, plein d'émotions. à travers mes chansons, il y a de l'amour dans l'air et les grandes ballades. Moi, j'ai toujours des témoignages de mariage, de gens qui se sont mariés, de gens qui ont passé des moments difficiles dans leur vie puis qui m'écrivent en privé, qui me disent « Martine, si je t'avais pas eu cet album-là, Un long chemin, ça serait plus dur pour moi aujourd'hui. » Alors, c'est tout ça qui fait ensemble qu'on se dit « Bon, je veux les garder. Je veux garder ces empreintes-là vivantes pour, en tout cas, beaucoup d'années, je le souhaite. » Et c'est ce qui a fait qu'on a décidé de rapatrier un peu mes grands succès puis les refaire en live. J'avais jamais fait de live de ma carrière.
Jamais d'album live?
Non, jamais. Okay. Sauf Starmania avant. Starmania, ouais. Oui. Et donc, c'était un beau prétexte.
Et j'ai lu dans divers articles que les jeunes commencent à redécouvrir ton répertoire. Ça, c'est fabuleux quand même. Je pensais même pas qu'il y avait un renouvellement d'une base de des fans là, ou des gens qui aiment tes chansons.
À chaque semaine, je reçois un enregistrement d'un jeune qui a repris « Danse avec moi », qui a repris « Ce soir, l'amour est dans tes yeux ». Louis-Jean a fait sa version. Mm-hmm. Et puis moi, j'adore ça parce que ils s'accaparent, ils reprennent les mélodies, ils les chantent à leur goût. Et moi, ce qu'on me dit de cette jeunesse-là, c'est que les mélodies, parce qu'il faut remercier les auteurs-compositeurs qui m'ont bien habillé, bien servi, c'est des mélodies qui donnent la chance à son instrument, donc sa voix, de se parfaire, de se trouver comme vocalement. Alors, je trouve ça génial qu'il y ait tant de jeunes qui reprennent ces chansons.
Martine, mon ami MC est un garçon parfois cynique, qui n'est pas porté à l'admiration, mais quand il a su que tu t'en venais, il était vraiment très fébrile. Il était toute chose, oui, ému. Explique-nous pourquoi tu aimes beaucoup Martine Sinclair.
Je le dis souvent, la musique, c'est de l'émotion. Tu sais, les gens, je trouve que les gens jugent trop la musique. Faut se laisser aller. Et Martine Sinclair, ben, tu sais, ça a bercé. Moi, la musique chez nous, ça a toujours été très, très important. Et vous connaissez mon amour du vinyle.
Oui.
Et c'est un peu ça, ta voix et tes chansons et tout ça, c'est de l'émotion brute. Et chez nous, on écoutait les disques de Martine Sinclair. C'est vraiment fort et de manière grandiose. Et en plus, moi, j'aime pas particulièrement... Je les adore aussi, mais j'aime surtout les chansons moins connues. Puis je pense que c'est un peu ce que tu vis aussi.
Moi aussi.
On va en écouter une, d'ailleurs. On va écouter tous les jukebox parce que c'est ce que tu avais chanté à MC.
C'est vrai.
Elle est sur le mini-album.
Oui.
Bon, on va en écouter une.
Parfait.
D'albums vendus, 6 Félix, 2 Metro Star, 2 artistes. Là, on écoute cette chanson-là. Il y a des chansons qui deviennent de grands succès. Il y en a qui lèvent moins. Est-ce qu'une interprète peut comprendre qu'est-ce qui fait qu'une chanson fonctionne, qu'une autre fonctionne moins? Puis j'imagine que des fois, ça peut être crève-cœur.
Oh, c'est une bonne question, ça. Il faudrait s'en parler très longuement.
On ne sait jamais, hein?
On ne sait jamais. Il y a une chanson qui s'appelle « Un long chemin », qui est le titre de l'album. Moi, c'est une de mes chansons préférées. Ça n'a pas été un extrait, ça n'a pas sorti en radio, mais ça reste aujourd'hui. Quand je fais une tournée, je demande à mon équipe, à mon réalisateur, « Tu l'ajoutes dans le show, je veux la faire, parce que ça me fait du bien. » Et je me rends compte que de la présenter et de la faire à tous les soirs, le public la découvre. C'est comme Totem en ce moment. On lance la première nouvelle chanson avec Lucien Francoeur, Totem, qui va faire partie de l'album.
On va se payer la traite.
Oh,
on
oui.
l'a, on
oh.
l'a. On va l'écouter.
Me font chanter, le temps est bon, le tour est joué.
J'adore.
Sur un aéroplane d'enfants en papier, dans cette œuvre en Totem, barbouillé des Je t'aime, on va sonner.
Martine, ça continue, on va
le
garder après
oui.
la pause.
Mais Martine, t'as un plaisir. Je me trompe, je te regarde aller, là, c'est la troisième chanson qui joue depuis que t'es assise avec nous. T'as un plaisir enfantin encore à chanter.
complètement. Moi, c'est ce qui fait battre mon cœur. Je veux dire, tous les jours, de savoir qu'il y a un public qui est encore là, de savoir que j'ai des auteurs-compositeurs comme Lucien Francoeur qui est venu m'écrire sur mesure ce texte, ça me fait un bien immense. Je pourrais pas me voir grandir, continuer ma vie sans chanter.
Mais est-ce que tu sais que ta voix, parce que quand on regarde un chanteur ou une chanteuse, tu sais, on a toujours, il y a beaucoup de concours ces jours-ci où on voit des jeunes, puis bon, c'est pas toujours placé, tout ça. Toi, quand on te regarde, je n'ai jamais aucun doute que tu vas rater une note. Tu n'as jamais raté une note quand je t'ai entendu.
Ça peut arriver, ça peut arriver.
Mais tu chantes parfaite pour moi, parfaitement. Mais... Est-ce que tu sais ça? Samedi soir, à dire de l'univers, t'as fait Still Loving You, quand même, c'est pas rien.
Oh, pour Fallu, ben oui.
The Scorpions.
Mais quand j'ai découvert...
Tu sais la chanter, t'as fait aucune erreur.
Mais cette mélodie-là est immense. Je l'ai... Quand j'ai dit oui à tout ça, parce que c'était pour Stéphane, mais en même temps, j'ai écouté la mélodie, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est grand. Parce que ça change tout de suite de plateau après le premier couplet. Alors, c'est tout de suite, on n'a pas le temps de respirer. Ça monte dans les aigus et il faut se placer rapidement.
Martine, on te garderait pour finir l'heure après la pause?
Avec ça plaisir.
Parfait. Ben, petite pause, on va te garder pour aller jusqu'à 17h.
Merci.
Monopolis, extrait de l'album Live 2022 de Martine Sinclair, la grande Martine Sinclair qui est avec nous.
Qui est une chanson qui est tirée de Starmania.
Absolument.
Et c'est la chanson qui a lancé Martine Sinclair. Martine Sinclair qui a été découverte à cégep en spectacle.
Oui. Ah oui?
Parce que Luc Plamondon était assis dans la salle.
Oui.
Et il t'a entendu chanter. Puis pendant la pause, tu nous expliquais que tu n'avais pas de voix avant. Tu avais un grain de voix.
Oui, un petit filet de voix.
Un petit filet de voix.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a vu, Plamondon, à ce genre de spectacle?
Mais la voix avait déjà, c'était amélioré, c'était un peu grandi, élargi. J'avais pris des cours de chant juste avant et tout. Et donc, je m'inscris au cégep en spectacle. Moi, la timide, la réservée. Et je demande à l'équipe, je vais le faire pour une. Je vous demande une petite, petit quelque chose de à part là. Je veux que ma sœur soit là au piano, Lynn, pour qu'on chante nos chansons comme on faisait dans le salon à la maison. Alors on avait fait Le Petit Roi, Le Monde est Stone, La Serveuse Automate, et donc cette soirée-là, Luc est là et puis il s'intéresse à ma voix, à mon talent. Puis quelques jours plus tard, il téléphone à mon père puis il lui dit, écoutez, Monsieur No. Il dit, j'aimerais que votre fille passe une audition. Je la verrais dans un rôle de Starmania. Moi, il dit, écoutez, M. Plamondon, c'est pas possible. Elle va au cégep. Elle est super occupée. Ben, elle étudie.
Rappelez après sa technique.
Oui, en technique infirmière, faut qu'elle a pas le temps. Pardon? Luc lâche pas, évidemment. Et puis, donc, c'est ce rôle-là qui a tout ouvert les portes, qui m'a donné la chance de rencontrer mon public. Cette même année-là, j'ai remporté le Félix pour la révélation de l'année, sans album, sans disque.
C'est incroyable quand même. Quand tu arrives sur scène, parce que le spectacle que tu vas présenter, tu vas te raconter dans le fond. Les chansons vont être un peu comme des pierres qui vont te faire balancer sur ton histoire de chanteuse.
Absolument. Il n'y a rien de... La mise en scène a été pensée avec mon amie la grande Alice Ronfard que j'adore et que je salue. Et donc c'est il y a rien de stagé, il y a rien de il y a beaucoup de moments comme je le fais avec mes amis chez moi, je me raconte par moments t'aimerais ça MC, il y a mes vinyles sur le piano, je prends un vinyle puis je regarde, je dis au public regardez la pochette là. C'est pas super réussi. J'étais habillée comme ça. Donc, je me donne des chemins comme ça pour me raconter, donner des moments de ma vie quand j'ai rencontré Gilles Barbécaud. Tout ce que fait, il y a eu des accidents qui sont arrivés. Tu te dis, ben voyons, comment c'est arrivé dans ma vie, tout ça?
Le moment que René Lévesque est un moment culte.
Oui. Voilà.
Faire pleurer.
Au départ de René Lévesque, dans son party d'adieu.
T'étais son idole.
À sa demande, donc, cette soirée-là, j'y suis pour chanter « Ce soir, l'amour est dans tes yeux ». Mais moi, je m'attends pas à ce que... Et j'oublie qu'il y a tous ses amis, tous ses collègues de travail. C'est l'hommage ultime à ce grand homme que j'adore. Et je suis en coulisses, puis il y a une petite ouverture entre les rideaux, puis je regarde, puis je fais... Oh mon Dieu, j'arrive sur scène, il faut que je lui chante la chanson. Puis on lui avait mis comme un médaillon d'éclairage, là, puis je l'avais vu pleurer, puis j'étais vraiment, vraiment.
Mais quand il craque heureuse. Comme ça, toi, il faut que tu chantes?
Absolument. Moi, je le voyais. Parce
t'as avait... réussi?
Oui, j'ai réussi, oui.
C'est fait.
Bravo.
Je vais être la première en avant, là, au spectacle.
Ah oui, bravo.
Moi aussi. La grande Martine Sinclair, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venue nous voir en studio. Merci.
Merci, belle Merci. Équipe. Bye.
Patrick Lagacé en accéléré.
On accueille en studio Martin Carly pour une première entrevue. Salut Martin.
Salut.
Tout le monde te connaît, docteur en sciences neurologiques, co-animateur de l'émission Génial et génial vulgarisateur scientifique. Je vais commencer notre entrevue par une question à MC. MC, la contraception dans ton couple, c'est la responsabilité de qui?
Ben là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle patente à gosse que pour, c'est codé, pour messieurs. Ben c'est malheureusement, nous les hommes, c'est sérieusement, là je vais être...
Je te sens gêné, je vais commencer l'entrevue. Non, attends, pense à ta réponse.
Non, je pense pas qu'à geler ma réponse. C'est difficile en tant que gars de dire qu'on est féministe, mais il y a vraiment trop d'injustices gars-filles. Mm-hmm. Un, nous, on n'est jamais menstrué. Deux, on peut pisser debout quand on arrête sur le bord de l'autoroute puis on envoie ça dans le champ. C'est pas nous qui portons les enfants. On n'accouche pas, ce qui me semble, ma foi, fort douloureux. Tout ça est injuste. Et en plus, la contraception, c'est pas mal le lot des femmes parce qu'elles ne font pas toujours confiance à l'homme, sans doute parfois avec raison. Donc, mesdames, bravo à vous. Est-ce que c'est une bonne introduction pour ton entrevue, ça?
Ben, merci pour ce long détour, mais on va aller dans le vif du sujet parce que, Martin...
Il me reste plus de temps. Martin, je suis venu en studio juste pour ça.
Mais merci, oui, c'était ça.
Il y a ce vieux rêve d'une contraception, oui, d'une pilule anticonceptionnelle pour les hommes. Oui. Ce n'est jamais arrivé. Et là, ben, il y a une nouvelle qui donne un peu d'espoir.
Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs tentatives avec les années là, d'avoir un mode de contraception qui est moins aux antipodes là, de ce qui est disponible pour les hommes actuellement. Parce qu'actuellement, il y a quoi? Il y a le condom qui est un usage unique, bien entendu. Puis à l'autre bout, il y a la vasectomie qui peut être difficile et compliquée à renverser lorsqu'on veut faire ça. Donc, dans le milieu, ben, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont efficaces. Et vous devez savoir que la recherche sur la pilule contraceptive masculine, ben, ça date des années 60. Là, ça date de l'autorisation de l'utilisation de la pilule féminine. Alors, on imagine, bien entendu, qu'il y a eu des barrières. Ces barrières-là sont hormonales. Donc, l'approche qui a été utilisée avec la pilule contraceptive féminine, d'aller venir avec des hormones modifier le cycle menstruel féminin, ben, cette approche-là de jouer sur les hormones pour les gars, ça fonctionne moins bien. Il y a toutes sortes d'effets secondaires lorsqu'on veut jouer sur la testostérone, les taux de testostérone, par exemple. Donc, on peut parler dépression, prise de poids, problème de cholestérol. Ça peut mener à un risque accru de maladie cardiaque. Donc, l'approche classique n'était pas la bonne.
Ça peut mener à des plus grands problèmes que ce qu'on dénote pour les femmes dans les changements hormonaux provoqués par la pilule.
Ouais, ben ça, c'est. Je suis très content que tu mentionnes ça et très content aussi du préambule de MC parce que.
Est-ce qu'il va y avoir des sautes d'humeur,
nonobstant les sautes d'humeur, les fameux problèmes de caillots sanguins dont on a parlé au début de la vaccination, ouais, pour la COVID, ben, les femmes doivent gérer ça aussi, en plus, cette inquiétude-là, qu'il y a des effets secondaires reliés à la pilule qui est autorisée depuis longtemps chez les femmes. Puis, je sais pas, est-ce que les gars, on se dit non, nous, c'est zéro effet secondaire ou ben donc, on adhère pas à ça.
Mais j'ai déjà entendu, Martin, des voix féminines qui disaient s'il n'y a pas de pilule anticonceptionnelle, oui, pour les hommes, c'est parce que la recherche est genrée.
Ouais, ben ça, c'est sûr que ça c'est un autre débat ben le fun, à savoir la sous-représentation féminine en sciences, ça c'est sûr. Surtout dans certains domaines, notamment l'ingénierie et ainsi de suite, on voit des taux là de diplomation féminine qui sont très bas et c'est clairement pas parce que les femmes sont pas bonnes en sciences, au contraire, elles sont très bien représentées en sciences biomédicales par exemple. Donc oui, ça se peut que lorsque tu t'as pas une communauté scientifique qui est parfaitement représentative de la société en général, ça se peut que tu aies des choses qui soient un peu genrées, qui soient, tu sais, pas tout à fait. Là,
mais il y a quand même, mais ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même des embûches, oui, dans la façon dont les hormones masculines fonctionnent.
Oui,
là,
absolument, avec les effets secondaires. Alors aujourd'hui, la nouvelle, ce qui est le fun, c'est que les chercheurs nous présentent une approche qui n'était pas hormonale, parce que ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est qu'on a besoin de plein de vitamines dans notre alimentation, notamment la vitamine A. Et la vitamine A dans notre corps va être métabolisée en toutes sortes d'affaires, notamment notamment en acide rétinoïque. Et c'est cet acide-là qui contribue notamment à la formation des spermatozoïdes. Donc là, ce que les chercheurs ont fait, ils ont dit « Parfait, on passera pas par les hormones, on va passer par l'acide rétinoïque qui nous vient de la vitamine A. Puis on va venir bloquer le récepteur sur lequel cet acide-là vient jouer dans notre corps pour la formation de spermatozoïdes. Puis ça va être ça l'approche. »
Et là, Martin, ces tests-là là, ont été faits sur des souris.
Oui.
Dis-nous d'abord, est-ce que on peut penser que la souris est représentative du métabolisme humain?
Ben, représentative, pas nécessairement. De temps en temps, on a... En fait, pour le moment, on n'a pas de raison de croire que ça se transposera pas chez les humains. Mais en même temps, il y en a eu des cas où ce qui marchait chez les souris, c'est pas transposé chez les humains, bien entendu. Ça arrive. Mais au moins, avec les souris, on a un modèle d'étude qui nous permet de faire des expériences rapides, parce qu'en même temps, les souris ont un cycle reproducteur qui est pas mal plus vite que nous, par exemple. Donc, ça permet d'aller vite. Et là, ben, vois-tu...
T'es sûr?
Ben... ça, j'irai peut-être pas là, mais ce qui est intéressant ici, c'est que donc on a donné ce composé-là qui venait bloquer les récepteurs de l'acide rétinoïque à des souris mâles pendant 4 semaines. Et à ce moment-là, ben, on a fait diminuer les risques de grossesse de 99%.
99%. OK.
Sans effet secondaire, ce qui risque de rassurer ceux qui sont
mais
toujours
mais comment on sait si une souris fait une dépression?
Ben, et ça. Ça, c'est sûr. Mais déjà, au moins, on a quelque chose de très positif. On n'est pas passé par le chemin hormonal. Donc, ça aussi, c'est positif. Et évidemment, ça nous amène à une possible commercialisation. On peut penser dans 5 ans, mais encore une fois, il y a des étapes à franchir avant ça.
Je veux entendre la seule femme qui est autour de la table. Catherine, moi, j'ai fait un segment là-dessus à la télé il y a quelques mois. Et il y a une réticence chez beaucoup de femmes à laisser cette partie-là de la contraception à l'homme. Parce que toi, tu le sais, comme femme, que tu as pris ta pilule ou tu ne l'as pas prise, le gars, est-ce que tu peux vraiment te fier dessus? Parce que il n'y a pas de marge d'erreur.
Ben, moi, je ne ferais pas confiance à un partenaire quelconque. Là. Je ne mets pas mon chum sur la sellette. Mais ce que je veux dire, c'est nous qui tombons enceintes, c'est pas les hommes.
C'est sûr.
Fait que c'est nous qui avons les répercussions. Alors moi, je pense que c'est quand même important que la femme garde un certain contrôle. Je veux pas dire que les gars sont pas fiables.
Non, c'est sûr.
Non, j'irai pas jusque-là, mais des fois, quoique, ça peut arriver. Hein? C'est pas si l'autre t'a pris sa pilule ou pas.
Exact, c'est sûr. Mais les sondages, dans le cadre d'une étude comme ça, nous disent que la majorité des femmes sont prêtes à faire confiance à leur partenaire. On s'entend que lorsqu'on prend une pilule contraceptive, c'est parce qu'on est quand même dans une relation de couple qui est au-delà du one night stand, là, on s'entend. Parce que le condom, lui, vient protéger là, de certaines maladies, alors que la pilule protège pas de certaines maladies.
T'sais. Mais un gars qui ne voudrait pas avoir d'enfant, tu sais, je repense à, c'est quoi, l'horloge biologique de Ricardo Trogi, qui écrasait la pilule dans le verre de jus de sa blonde,
à l'insu de sa blonde,
pourrait prendre ça puis faire, ben coudon, je sais pas ce qui se passe, ça fonctionne pas.
C'est sûr.
On pourrait cacher les bonnes intentions avec la pilule.
Fait que là, t'as les pilules en cachette, t'as les condoms percés en cachette, c'est un beau couple, ça, finalement.
Vraiment.
Mais Martin, autant pour la pilule anticonceptionnelle, t'sais, le condom, c'est quand même une efficacité de 99% aussi,
ouais,
quand c'est bien, utilisé.
Exact, oui.
Sauf que là, il n'y a pas un danger, justement, que pour les ITS, les gens se fient là-dessus puis disent, oh mon Dieu, oups. Le condom a beaucoup plus d'avantages. Ben, en résumé, les gars, si on peut les truster pour prendre une pilule, pourquoi on les trusterait pas de mettre un condom, de faire attention et en plus de ne pas contaminer personne?
Le condom, tu le vois, tu as la preuve vivante, entre guillemets, devant toi.
C'est mieux, pourquoi on invente ça?
Ben, en fait, parce que c'est une solution qui est mitoyenne entre une solution qui est irréversible, et là, on est à la radio, là, je mets des guillemets là-dessus, lorsqu'on parle de vasectomie.
Ben,
ça peut se renverser.
Ouais.
C'est réversible, mais c'est quand même, c'est pas simple de dire, je m'en vais me faire rebrancher, si on veut. Il fallait y penser.
Mais ça
aussi.
Marche des fois, ça.
Effectivement. Puis, t'as l'utilisation qui est à la pièce du condom, à chaque relation sexuelle, bien entendu. Là, d'avoir une solution qui est, tu sais, je prends une pilule qui dure un certain temps, qui a un effet qui peut être réversible, parce que sur les souris, on a vu aussi que cette molécule-là avait un effet réversible. 6 semaines après avoir arrêté de la donner, les souris sont à nouveau capables de procréer. Donc, tu sais, c'est sûr que chaque individu va avoir un choix. C'est sûr que le problème, tu sais, ça fait depuis les années 60, depuis la pilule féminine, que les femmes doivent faire confiance, mais en même temps prendre le gros de la responsabilité de la contraception. pas persuadé que ça va changer du jour au lendemain. Je pense que ça va être un chemin qui va devoir prendre un certain temps.
Mais tu sais, je reviens à Catherine là-dessus. T'as dit, je veux pas dire que les gars sont pas fiables, mais c'est ça que tu voulais dire.
Mais oui, parce qu'en fait, on est habitué depuis qu'on est jeune d'avoir cette responsabilité-là. Puis MC les a toutes nommées en entrée chronique, mais je veux dire, on nous force déjà d'emblée à être responsable et d'avoir une charge en lien avec tout ce qui est hormonal chez nous. On a une charge supplémentaire qui est les sautes d'humeur, les menstruations, ouais, d'avoir mal, tout ça. Donc déjà, on a un poids, puis on a cette responsabilité-là parce que nos mères, en tout cas, nous expliquent très, très jeunes, déjà à l'âge de 12-13 ans, ben éventuellement, tu vas prendre la pilule, ça s'en vient, puis à 14-15 ans, tu commences à prendre la pilule. Fait qu'on est vite habitué. Je pense pas que les gars soient élevés de cette façon-là.
C'est votre corps aussi, en passant.
Ben oui, c'est notre corps, mais tu sais, tant qu'à mettre de l'effort sur un homme, j'aimerais mieux qu'on leur enseigne à mieux faire l'amour qu'à prendre la pilule.
Wow! Ça, c'est un autre dossier.
Voilà.
D'ailleurs, je m'en retourne chez nous. Wow.
Un instant. Ça m'amène un petit commentaire. J'ai hâte de voir l'expérience à Génial avec cette pilule-là.
Écoute, tu nous inviteras. On aura chacun notre équipe.
Que dit la science, Martin, sur les hommes qui font bien et moins bien l'amour?
La science ne dit rien. Non, je pense que la science regarde une gêne.
On ouvre les lignes. Appelez-nous. Merci beaucoup, Martin. Merci de nous voir. Martin, salut. Carly, animateur de l'émission Génial, vulgarisateur scientifique. Catherine,
la messagerie,
Tous les gars qui m'ont parlé de leur performance me disent tous qu'ils sont bons.
Bien, ouais. C'est ça, ouais. Ben, c'est ça. Continuez d'en parler entre vous.
Pas de raison d'en douter.
Vous allez voir, vous allez toujours rester très bon.
Et quelqu'un nous écrit que le moyen de contraception par excellence est l'abstinence. Oui,
mais.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.